Nous pourrions lire dans la deuxième épître aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 8. Nous ne voulons pas, frères, que vous ignoriez quant à notre affliction qui nous est arrivée en Asie, que nous avons été excessivement chargés au-delà de notre force, de sorte que nous avons désespéré même de vivre. Mais nous avions en nous-mêmes la sentence de mort afin que nous n'eussions pas confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Verset 15. Dans cette confiance, j'avais voulu aller auprès de vous d'abord, afin que vous eussiez une seconde grâce et par chez vous passer en Macédoine, et de Macédoine de nouveau aller auprès de vous, et puis que vous me fissiez la conduite vers la Judée. En me proposant donc cela, est-ce que j'aurais usé de légèreté, ou les choses que je me propose, me les proposais-je selon la chair, en sorte qu'il y ait en moi le oui et le non, non. Dieu est fidèle, que notre parole que nous vous avons adressée n'est pas oui et non. Chapitre 2, verset 12. Or, étant arrivé dans la Troade pour l'évangile du Christ, et une porte m'y étant ouverte dans le Seigneur, je n'ai point eu de repos dans mon esprit parce que je n'ai pas trouvé Tite, mon frère. Mais ayant pris congé d'eux, je suis parti pour la Macédoine. Or, grâce à Dieu, qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ, et manifeste par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Car nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu, à l'égard de ceux qui sont sauvés et à l'égard de ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort pour la mort, aux autres, une odeur de vie pour la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne sommes pas comme plusieurs qui frelatent la parole de Dieu, mais comme avec sincérité, comme de la part de Dieu, devant Dieu, nous parlons en Christ. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation de votre part? Vous êtes, vous, notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Car vous êtes manifesté comme étant la lettre de Christ dressée par notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de chair, mais sur les tables de chair du cœur. Or, nous avons une telle confiance par le Christ envers Dieu, non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu, qui nous a rendus propres aussi pour être des ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Verset 16. Or, le Seigneur est l'esprit, mais là où est l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. C'est pourquoi, ayant ce ministère, comme ayant obtenu miséricorde, nous ne nous lassons point, mais nous avons entièrement renoncé aux choses honteuses qui se font en secret, ne marchant point avec ruse, ne falsifiant point la parole de Dieu, mais par la manifestation de la vérité, nous recommandant nous-mêmes à toute conscience d'homme devant Dieu. Et si aussi notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent, en lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules, pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendît pas pour eux. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Christ Jésus comme Seigneur et nous-mêmes comme vos esclaves pour l'amour de Jésus. Car c'est le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres la lumière resplendit, qui a reluit dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. Je relis. C'est le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres la lumière resplendit, qui a reluit dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous. Verset 11. Car nous qui vivons, nous sommes toujours livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Verset 16. C'est pourquoi nous ne nous lassons point, mais si même notre homme extérieur dépérit, toutefois l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Car notre légère tribulation d'un moment opère pour nous, en mesure surabondante, un poids éternel de gloire. Nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. Car nous savons que si notre maison terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons un édifice de la part de Dieu, une maison qui n'est pas faite de main, éternelle dans les cieux. Verset 4, car aussi nous qui sommes dans la tente, nous gémissons étant chargés. Non pas que nous désirions d'être dépouillés, mais nous désirons être revêtus, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. On rappelle donc que cette deuxième épître fait suite à la première où l'apôtre avait été amené à reprendre toutes sortes de désordres ou de fausses doctrines qui existaient parmi les Corinthiens. Et en particulier, il les avait censurés vertement sur un cas d'immoralité. Et alors, il exprime à plusieurs reprises son angoisse devant la question de... Il était soucieux de savoir comment les Corinthiens allaient recevoir sa première épître, recevoir sa répréhension. Et alors, il leur écrit cette deuxième épître parce qu'il a reçu entre-temps, on trouve ça au chapitre 7, des nouvelles sur l'état des Corinthiens par le moyen de Tite qui était allé chercher des nouvelles. Et alors, il leur écrit donc cette deuxième lettre en sachant un peu plus sur ce qu'il en était des Corinthiens. Mais quant à lui-même, donc, il était dans des conditions très difficiles, puisqu'il est amené, donc, dans ce que nous avons lu, amené à dire que nous avons désespéré même de vivre, nous avons été excessivement chargés au-delà de notre force. Cette expression qui est d'autant plus étonnante que dans la première épître, il a dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Dieu est fidèle qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. » Mais lui, il avait désespéré même de vivre, mais il estimait que Dieu avait permis cela pour que nous n'eussions pas confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Il avait désespéré de vivre, mais comme sa confiance était en Dieu qui ressuscite les morts, et bien même la mort n'était pas un problème pour lui. Et c'est pour cela qu'il n'était pas tenté au-delà de ses propres forces, mais il était chargé au-delà de sa force. Alors, dans les choses qu'il avait apprises, il y a plusieurs reprises, Il apparaît dans cet épître des questionnements. On en a lu un, par exemple, au verset 17, quand il dit « En me proposant donc cela, est-ce que j'aurais usé de légèreté ? Mais en réalité, il faut bien comprendre cette épître, ce n'est pas une formule, une figure de style, comme on dit. Et c'était en réalité qu'il y avait des gens parmi les Corinthiens qui insinuaient que l'apôtre usait de légèreté. Il y avait aussi toutes sortes d'autres insinuations. On a lu aussi ailleurs qu'il y avait des gens qui estimaient qu'il était charnel, il y en avait d'autres qui, au chapitre 10, il y en a d'autres qui suggéraient qu'il était fort dans ses lettres mais faible dans sa présence. Disons qu'il y avait toutes sortes d'accusations qui étaient des accusations personnelles, mais pas du tout des accusations sur le fond. Et puis la manière dont l'apôtre répond à ces accusations personnelles était tout à fait remarquable. Parce que on voit que, comme on l'a dans ce verset 17, il reprend l'argument, mais sous forme de question, sans le formuler d'une manière qui démolissait ceux qui le critiquaient. Et alors, non seulement il leur répond de cette manière-là, mais en plus de ça, il donne ses motifs d'action. Alors, en fait, ses motifs d'action, il s'en excuse même à plusieurs endroits dans les chapitres 7 et puis dans les chapitres 12. Il s'en excuse en disant, mais ne croyez pas que je cherche à parler de moi. Il était presque gêné de parler de lui parce que normalement, il devait parler de Christ et pas de lui-même. Mais il parlait de lui-même pour les enseigner quant à ce en quoi consistait le ministère chrétien. Et alors, c'est pour ça que cet épître, effectivement, parle beaucoup du ministère chrétien, du service chrétien. Le mot ministère et le mot service sont équivalents. Mais en fait, il en parle non pas pour faire un traité du ministère, mais pour les enseigner et à l'occasion de critiques, d'insinuations qui étaient faites contre lui. Insinuations qui sont sans fondement parce que justement il montre ce qui en était en réalité. Donc dans cette affaire d'agir avec légèreté, c'est qu'il avait eu le projet d'aller visiter les Corinthiens, puis finalement il n'y était pas allé. Et alors, il y avait des gens qui disaient, bon, vous voyez, il eut un coup dans un sens, un coup dans l'autre, et il est pas, et il y a de la légèreté, on ne peut pas se fier à lui. Et puis, alors, il continue ça, donc dans ce qu'on a lu au chapitre 2, verset 12 et suivant, il leur dit, mais j'étais arrivé en Troade, donc c'était du côté d'Éphèse, sauf erreur, et en Turquie actuelle, et une porte y était ouverte, il y avait, disons, l'évangile réussissait, si on peut dire ainsi, et il y avait une écoute qui était brillante, et un champ de travail qui était brillant. Mais il avait un tel souci pour les Corinthiens qu'il avait laissé de côté un champ de travail aussi brillant et était parti d'abord pour la Macédoine, mais la Macédoine, c'est au nord de Corinthe, et c'était une étape transitoire. Et puis, il présente, mais de toute façon, donc, grâce à Dieu qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ, manifestant pour nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu, car nous sommes la bonne odeur de Christ. Alors, ce verset, et puis jusqu'au verset 17, sont tout à fait remarquables parce qu'on voit que, au fond, il avait raté, excusez l'expression, un champ de travail brillant, et on aurait pu dire, mais enfin, c'est une occasion d'évangéliser pareil, ça se manque pas. Mais il dit, mais de toute façon, où qu'il aille, il manifestait la bonne odeur de Christ, en tout lieu. C'est bien précisé à la fin du verset 14. Et donc, c'est aux uns odeur de vie pour la vie, ça c'était pour les croyants, pour y manifester Christ pour les croyants, pour leur édification. Aux autres, c'était pour les incrédules, Et c'était odeur de mort pour la mort, un avertissement du jugement. Mais quelle instruction et quelle indication de cet apôtre qui, où qu'il aille, il manifeste Christ. Et disons qu'on a là, plus qu'un modèle, disons une ligne tracée qui éclaire, qu'il nous soit donné de la suivre. Mais attention, on peut frelater la parole de Dieu, verset 17. Alors c'est bien de manifester Christ, odeur de vie ou odeur de mort, mais il faut le faire correctement. Et il y avait ceux qui frelataient. Et alors, le début du chapitre 3 commence par cette expression « Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ». Alors, il faut faire attention qu'il nous soit donné quand nous lisons les Corinthiens, enfin, toute la parole, mais de la lire soigneusement, attentivement. On a peut-être trop tendance à dire, oh ben, le chapitre 2, il parle de ceci, le chapitre 3, il parle des lettres de recommandation, le chapitre 4, il parle de la manifestation de l'Évangile. Et en fait, il y a une continuité dans la pensée et dans le texte, et la séparation en chapitre 3, 4 et autres, c'est quelque chose qui a été rajouté par les hommes, qui est commode, qui est une bonne chose, mais qui quelquefois, ça correspond bien au sujet, mais pas toujours. Et alors là, c'est une affaire des lettres de recommandation. C'est pas pour se mettre à traiter des questions de discipline et de lettres de recommandation entre assemblées. C'était une façon de dire, mais je suis en train de parler de moi, de mon service, de ce que je fais et de la bonne odeur que je laisse derrière moi. Alors, est-ce que vous allez m'accuser maintenant que je suis en train de me recommander moi-même ou de faire comme d'autres ont besoin de l'aide de recommandation? Mais il dit, mais j'ai pas besoin d'être recommandé et j'ai pas besoin de me recommander moi-même puisque c'est vous qui êtes ma lettre de recommandation. Ou même, il ne dit pas exactement ma lettre de recommandation, il dit la lettre de Christ, parce qu'il s'agissait de recommander d'abord Christ. La lettre de Christ dressée par notre ministère, ça veut dire que c'était les Corinthiens qui étaient le fruit de son ministère, qui avait été converti par son moyen et formé en assemblée par son moyen. Je dis formé parce que je crois qu'il y était resté 18 mois. Et alors, il dit, mais le ministère qu'il a, c'est pas un ministère qui était simplement écrit avec de l'encre sur des tables de pierre, comme avait fait Moïse avec des commandements, faites ceci, faites cela. Mais c'est le ministère de Christ, il grave dans les cœurs, et sur les tables de chair du cœur, il grave. Et c'est pour ça qu'après, il parle aussi de la nouvelle alliance, parce que la nouvelle alliance, c'était contrairement à la lettre, parce qu'au verset 6, quand il est dit la lettre, il fait allusion à la loi de Moïse, aux commandements qu'on avait dans l'Ancien Testament, et tandis que lui, alors, il est ministre de la nouvelle alliance. Alors, on l'a dit souvent, c'est pas que la nouvelle alliance soit directement pour l'Église, mais c'est comme le Seigneur, quand il a établi la scène, il a dit, c'est ici la nouvelle alliance. Il a parlé du sang de la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, pour Israël, c'est Hébreux 8, elle a les mêmes principes que nous avons, qui nous guident aujourd'hui, même si nous ne sommes pas sous la nouvelle alliance, les principes sont les mêmes, et en particulier, elle est gravée sur les cœurs, ça veut dire qu'on est appelé à suivre Christ, par en particulier l'amour qui a été versé dans nos cœurs, et tout ce que l'Esprit de Dieu, alors c'est l'Esprit de Dieu, verset 3, qui écrit. Et alors c'est pour ça qu'il dit que l'Esprit vivifie, c'est l'Esprit qui travaille. Mais il y a le ministère de l'apôtre, mais il a l'Esprit et l'Esprit travaille. Et alors il dit nom de la lettre, alors font faire bien attention à ça. On interprète quelquefois qu'il ne faut pas, on se sert de ce passage pour dire qu'il ne faut pas interpréter la parole à la lettre, c'est faux. Quand il est dit ici, nom de la lettre, car la lettre tue, ça ne veut pas du tout dire, il ne fait pas une allusion à une interprétation littérale, il met en opposition la lettre de la loi de Moïse, de ce qui était autrefois l'ancienne alliance par rapport à la nouvelle alliance. L'ancienne alliance était gravée sur des tables de pierre et maintenant la nouvelle alliance, elle est gravée dans notre cœur. On est motivé par le désir de manifester Christ. Et c'était ça l'objet de son ministère. Alors en fait, dans le verset 17 qui est mis à le traducteur a fait une parenthèse du verset 7 à 16, et il souligne que le Seigneur est l'Esprit, c'est parce que c'est l'Esprit de ce que Dieu nous enseigne, l'Esprit de la parole, l'Esprit de tout l'Ancien Testament, c'est Christ, c'est le Seigneur, c'est lui qui est l'Esprit. Et alors, quand il y a le Seigneur qui est l'Esprit, il y a l'Esprit du Seigneur, verset 17, qui agit, qui travaille. Et puis, il y a la liberté. Qu'est-ce que vient faire cette histoire de liberté à cet endroit-là? Mais c'est parce qu'il met en opposition la lettre de l'Ancienne Alliance écrite sur des tables de chair avec des commandements, fais ceci, fais cela. Et puis, il dit, maintenant, il y a le Christ qui est gravé dans nos cœurs, l'Esprit le fait et le manifeste, et alors ça donne une liberté. Et c'est pas la liberté de la chair et la liberté de faire n'importe quoi, c'est la vraie liberté chrétienne, ou c'est la conduite par l'Esprit. Et alors, au fond, le fruit de ce ministère, c'est une transformation, verset 18, transformation en la même image du Seigneur, puisqu'on contemple la gloire du Seigneur en face découverte, il y a une transformation de gloire en gloire. C'est-à-dire, on n'est pas statique, on ne reste pas à juste suivre une lettre et un commandement, mais on progresse et on progresse. Alors on va voir ça plus précisément à la fin du chapitre 4. On progresse non pas vers des choses visibles, mais des choses qui ne se voient pas. Alors ça, c'est une caractéristique du christianisme. Nous y sommes peut-être habitués, mais il faut bien nous rendre compte que ce n'est pas si évident que ça. Si toutes les religions des hommes ont fait des religions visibles, et c'est là l'Église a judaïsé, comme on dit, on a refait des bâtiments, des clergés, des beaux vêtements, de la musique, tout. Mais notre regard, c'est le verset 18 du chapitre 4, nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas, car les choses qui se voient sont pour un temps et celles qui ne se voient pas sont éternelles. Alors ça, c'est à la fois c'est quelque chose d'important, parce que c'est la vie de la foi qui regarde vers le ciel et vers les choses invisibles. Mais en même temps, c'est presque ce qui repousse l'homme naturel. C'est l'homme naturel, il veut s'appuyer sur du tangible, du visible. Alors voilà la foi qui s'appuie sur ces choses invisibles. Et alors, effectivement, il y a disons humainement, il y a une certaine difficulté, parce qu'il faut reconnaître que naturellement, nous aimons nous appuyer sur du tangible, sur du matériel, sur du visible. Et puis, en le reste, on a tendance à pas y croire. Et voilà qu'on a ce christianisme qui transforme vers les choses invisibles, mais ce n'est pas des choses fictives. On regarde le chapitre 3, verset 18, « Contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, une transformation qui nous soit donnée de chers frères et sœurs, et quel que soit notre âge, de vivre encore cette transformation de gloire en gloire. Nous sentons notre faiblesse et notre néant quand nous parlons de ces choses, mais néanmoins, c'est ce que dit l'Écriture. Et il faut coller à l'Écriture et que nous puissions ainsi être pénétrés de ces choses. Et alors, à ce moment-là, la conséquence directe, c'est, il dit, verset 1, c'est pourquoi nous ne nous lassons point. Alors, il avait ce ministère, donc, il expliquait ce qui animait son ministère avec cet objectif de la gloire de Christ. Il dit, mais on n'est pas en train de vous raconter des histoires, c'est les choses honteuses qui se font en secret, où nous ne marchons point avec ruse, ne falsifions point la parole de Dieu. Non, on est en train de vous parler de la parole de Dieu et de le parler sans se lasser. Et on comprend que quand il est dit sans se lasser, ça a une force extraordinaire, parce qu'on a vu qu'il avait au chapitre 1, il avait désespéré même de vivre. Alors on voit cette force, cette énergie pour servir et pour travailler pour Christ. Et alors on voit à l'opposé, alors l'évangile. Alors il se met à parler de l'évangile, justement, parce que ça fait l'objet de son ministère. Et c'est assez frappant parce que, bon, l'évangile, nous avons tendance à quelquefois le résumer en disant « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé », ce qui n'est pas faux, mais il y a beaucoup plus, il y a beaucoup plus. Et alors on voit ici les expressions, mais il faut je les ai lues, mais il faut les relire et les relire. Et encore après la réunion, il faudra les relire chacun en pesant chaque mot. Alors, il y a notre évangile est voilé en ceux qui périssent. C'est le verset 3. Il est voilé en ceux, verset 4, en lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules. Alors, on voit que quand il y a des incrédules qui ne veulent pas croire, peut-être que c'est leur faute, mais c'est d'abord l'œuvre de Satan qui aveugle. Et c'est un des buts principaux de Satan d'aveugler quant à tout ce qui relève de l'évangile. Mais l'évangile, c'est quoi? C'est pas « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé », c'est l'évangile de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. Et une gloire qui resplendit. Alors on voit l'évangile, bonne nouvelle, qui annonce quoi? La gloire de Christ, et Christ qui est l'image de Dieu, un Christ glorifié. C'est d'ailleurs assez frappant parce que c'est aussi une caractéristique des religions des hommes et des religions chrétiennes, c'est de rattacher à des choses qui n'est pas du tout Christ glorifié. Même on fait l'enfant Jésus, on fait le Christ en croix, on fait un Christ toujours sur la terre, on ne fait pas le Christ glorifié. Et notre évangile, c'est l'évangile de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. Image parce que Dieu lui-même est invisible, on le voit en Christ. Et puis il prêche. Donc, alors, ça c'est ce que fait le Dieu ce siècle, Satan, il aveugle. Et puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Son ministère, il prêche. Verset 5. Nous prêchons le Christ Jésus comme Seigneur et nous-mêmes comme vos esclaves pour l'amour de Jésus. Car c'est le Dieu qui a dit que du ténèbre la lumière resplendit. C'est quoi ça? Ça c'est Genèse 1, que le premier jour de la création, que la lumière soit et la lumière fut. C'est ça le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres la lumière resplendit. Mais c'est ce même Dieu créateur qui maintenant, il se borne pas à une lumière matérielle ou visible comme en Genèse, mais il a dit que du sein des ténèbres, la lumière resplendit et cette lumière a reluit dans les cœurs, dans nos cœurs, pour faire quoi? Pour éclairer quoi? Il a dit pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. On retrouve ces expressions où il s'agit de connaître la gloire de Christ qui illumine le cœur de façon intérieure, mais c'est dans la face de Christ. Et c'est parce que Christ, glorifié, il est homme, et homme dans le ciel, et c'est lui qui fait connaître Dieu et sa gloire. Alors peut-être que certains trouveront que c'est compliqué, d'autres trouveront dire ben, que ça nous apporte. Mais ce que ça nous apporte, c'est ça, ce dont nous avons besoin d'être occupés pour faire des progrès, transformés de gloire en gloire. C'est de ça qu'il faut être occupé, et Dieu se plaît à nous faire connaître ces choses-là. Alors on dira, oui, mais d'accord, mais il y a les choses de la terre et puis il y a les ennuis de la terre. Ben, bien sûr, et l'apôtre lui-même, il en souffrait puisqu'il avait désespéré même de vivre. Et c'est aussi pour ça que Dieu donne cet exemple de l'apôtre pour montrer quelqu'un qui, malgré toutes les difficultés de la terre, il est occupé de la gloire de Christ et des choses glorieuses. Alors ça, c'est effectivement non seulement un modèle, mais une ligne de conduite. Et alors, cette question des choses matérielles qui ont l'air de s'opposer à la gloire de Dieu, alors, elle est reprise dans le verset 7 du chapitre 4. « Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre. » C'est-à-dire, c'est notre corps terrestre qui est pas solide du tout, vase de terre. « Afin que l'excellence de la puissance... » Alors, on dit le vase de terre, il a de la puissance. Eh bien oui, il en a, mais la puissance, elle est de Dieu et non pas de nous. Ce n'est pas le vase en lui-même qui a la puissance, c'est Dieu qui la donne. Étant dans la tribulation de toute manière, il l'a dit au chapitre 1, mais non pas réduit à l'étroit, mais on voit que les difficultés sont donc dans le but de montrer que l'excellence de la puissance vient de Dieu et non pas de nous. Alors, que nous puissions toujours désirer que l'œuvre de Dieu se fasse, que nous y contribuions avec puissance, mais ce qu'il faut, c'est que tout ça, de toute façon, la force, elle ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Alors, j'ai lu simplement, il faudrait lire tout le paragraphe en détail, je l'ai lu juste pour survoler le verset 10, mais portant toujours partout dans le corps la mort de Jésus, et la note dit le mourir. C'est la même pensée que celle du chapitre 1. Nous avons désespéré même de vivre, c'est la même chose. Afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre corps. Alors ça, on voit que on a vu déjà des choses gravées sur les tables de chair du cœur, et maintenant il y a quelque chose de plus, il y a la vie de Christ. C'était au fin du chapitre 2, on a vu l'odeur de Christ qui était manifestée, maintenant c'est la vie de Christ qui est manifestée. Mais c'est tout un sujet à part qui mériterait d'être développé, mais je ne vais pas en parler. Alors il revient, il re-répète. Au verset 16, nous ne nous lassons point. Mais alors nous comprenons que dans le premier, nous ne lassons point du verset 1, la pensée c'était toujours, on est occupé de la gloire et de choses excellentes, ben on ne va pas se lasser quand on est occupé de choses pareilles. Alors verset 16, c'est une pensée un peu différente. Il dit, ben, notre homme extérieur, il peut dépérir, mais l'homme intérieur, il est renouvelé de jour en jour. Alors on ne se lasse pas, parce que l'homme intérieur est renouvelé. Et alors, on a ces expressions. Alors, ces expressions qui sont belles, que nous connaissons souvent, parce que nous les lisons, parce que c'est de la consolation quand on est dans la difficulté, c'est les versets 16 à 18, où il parle de notre légère tribulation d'un moment. Mais la légère tribulation, il était en train de désespérer de vivre. Hein. Il faut mesurer les choses quand même. Et elle opère en mesure surabondante un poids éternel de gloire. Alors on pouvait dire, mais oui, mais on est transformé de gloire en gloire au chapitre 3, mais nous on n'y arrive pas, ou nous on ne sait pas comment. Et voilà que même ces tribulations, ces difficultés, elles opère en mesure surabondante un poids éternel de gloire. C'est le but des difficultés et qu'il nous soit donné au travers des difficultés d'être d'autant plus occupés de la gloire de Christ dans son aspect éternel. Et alors, c'est le verset 18 dont j'ai déjà parlé, nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas. Alors là aussi, avec le chapitre 5, on a tendance d'habitude à dire, bon ben il passe à un autre sujet là. Ben en fait, pas du tout. C'est la continuation directe. Parce qu'il vient de parler, au verset 18, les choses qui se voient sont pour un temps, et celles qui ne se voient pas sont éternelles. Et alors, il parle direct, ben, si notre maison terrestre, alors faut comprenons bien, quand il est dit notre maison terrestre, c'est notre corps matériel terrestre. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est pour ça qu'il le compare à une tente. C'est quelque chose de fragile, qui se démonte, qui n'est pas solide. Alors c'est bien pour ça. Il dit, si notre maison terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, ben, détruite, si elle est détruite, c'est la mort. Nous avons un édifice de la part de Dieu. Mais là aussi, comprenons bien, édifice de la part de Dieu, ce n'est pas la maison du Père dans le ciel. L'édifice de la part de Dieu, la maison qui n'est pas faite de main, c'est le corps glorieux que nous aurons, soit par la résurrection, soit par le changement qui intervient au moment de l'enlèvement de l'Église. C'est ça, l'édifice de la part de Dieu. Car aussi, alors, verset 2, car aussi dans cette tente, nous gémissons, désirant avec ardeur d'avoir revêtu notre domicile qui est du ciel. Mais qu'est-ce que c'est revêtu de notre domicile qui est du ciel ? C'est avoir, recevoir notre corps glorieux. Et alors on gémit dans le corps, dans cette tente, c'est dans le corps terrestre avec toutes les difficultés ou misères que nous pouvons avoir, mais on désire avec ardeur, on a le regard fixé vers le domicile qui est du ciel, le corps glorieux. Mais ça fait partie de ces choses qui ne se voient pas et qui sont éternelles du verset 18, c'est la continuation directe. Alors il y a bien le risque, si on n'a pas la vie, d'être trouvé nu, c'est le verset 3, j'insiste pas beaucoup. Et alors on a ce verset 4, « Car aussi, nous qui sommes dans l'attente, nous gémissons étant chargés, alors non pas que nous désirions d'être dépouillés. » Dépouillés, c'est par la mort, si on est dépouillé de notre corps terrestre qui est qu'une tente, si on en est dépouillé, c'est qu'on est mort. Mais nous désirons être, il est dit, revêtus afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Alors, il ne parle pas ici de résurrection, c'est assez frappant. Il parle de revêtir afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. C'est de quoi qu'il s'agit. Mais c'est le changement à l'enlèvement de l'Église où on revêt le corps glorieux. Puis ce qui est mortel, c'est notre corps actuel, il est comme absorbé par la vie. C'est pour ça que ce n'est pas une résurrection, là. Enfin, c'est bien à ce moment-là qu'il y aura la résurrection. Mais la manière dont il en parle, il ne parle pas de la résurrection. C'est même pas. Mais c'est frappant, c'est parce que son but, c'est pas de dire l'homme extérieur dépérit, nous allons vers la mort, c'est triste, mais il faut être consolé. C'est vrai tout ça. Mais c'est pas comme ça qu'il présente les choses. Il dit, on a un corps, c'est une tente. Eh bien, il faut le changer, cette tente, il faut passer à un domicile, et ce domicile, il y a une absorption du précédent par la vie éternelle, la vie de Dieu, la vie de Christ. Et alors il dit, verset 5, « Or celui qui nous a formés à cela, c'est Dieu qui nous a aussi donné les arts de l'esprit. » Alors on voit Dieu qui donne les arts de l'esprit pour nous former pour vers le ciel. Alors je ne vais pas aller plus loin, mais en fait c'est toute la suite du chapitre qui mérite d'être considérée, et puis ça amène à un autre sujet qui est à la fin du chapitre, le sujet de la réconciliation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ce fond, cette substance du ministère chrétien, du service, tel que l'apôtre le présente, qui transforme de gloire en gloire, transformé dans le cœur, qui, tout ça, on est les yeux fixés sur des choses invisibles, et à ce moment-là, c'est une transformation de gloire en gloire qui nous soit donnée de vivre ces choses, mais aussi de les approfondir en lecture et en méditation, parce que je reconnais, j'ai essayé d'en faciliter la compréhension, mais je reconnais que c'est pas très facile. Mais c'est pas très facile, mais il y a bien des choses qu'elles sont pas très faciles parce qu'on y passe trop vite dessus. Et qu'il est désirable qu'on s'y arrête, qu'on médite, qu'on demande au Seigneur de nous faire comprendre et de nous faire entrer dans ces choses, dans les choses invisibles.